du U. Encore du U.
Ah, 18h, 19h. C'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio U. L'émission, c'est vous qui le dites. J'espère que vous allez bien, que vous profitez de votre journée ensoleillée. Parce que oui, demain, on ne risquera pas d'avoir le soleil. Donc on profite au maximum. Nous, on vous propose de découvrir en deuxième partie d'émission le programme Pastoral Loup, des bénévoles engagés pour la protection des loups, aidant des éleveurs et des bergers à protéger les troupeaux pour éviter les attaques. Cette initiative débute en Bretagne. Mais tout de suite, nous recevons Nathan Arnaud, directeur artistique et chorégraphe du spectacle Nuit que l'on pourra voir ce vendredi au Macorlan. Bonsoir Nathan.
Bonsoir.
Est-ce que vous pouvez commencer par présenter la compagnie Murmuration ?
Tout à fait. Donc, je suis Nathan Arnaud, je dirige à Nantes une compagnie Murmuration qui existe depuis 10 ans, qui a été créée en 2015. Mmh. On est sur une compagnie de danse avec plusieurs artistes qui sont associés à cette compagnie. Et voilà, on a la chance de venir à Brest cette semaine présenter un spectacle vendredi.
Comment est-ce que par la danse, on révèle tous les sens, enfin d'autres sens que la vue, que ce soit pour les danseurs ou les téléspectateurs ?
Alors là, on est au cœur de mon travail, c'est-à-dire que dans ma démarche artistique, il y a vraiment la question à la fois de questionner comment on va accueillir le public lors de la représentation. Donc il y a vraiment tous ces enjeux de multiperception. Ça passe par un son qui va être spatialisé dans la salle de spectacle, donc ça va être le cas vendredi, par un dispositif scénographique qui permet de cloisonner le regard, donc avec vraiment des espaces qui vont être visibles et d'autres moins, donc ça découpe vraiment le regard quand on voit les danseurs passer entre les éléments de scénographie. Et puis ensuite une lumière qui va être subtile et qui nous permet de donner des espaces très lumineux et d'autres beaucoup moins. Donc on est vraiment là au cœur de l'écriture. Et pour moi, ça peut être une de mes manières de répondre à votre question, c'est-à-dire de se dire comment moi, en tant que chorégraphe, j'envisage l'accueil du public, donc le tout public. Mais évidemment, j'ai une attention particulière pour les personnes qui sont déficientes visuelles, comme moi. Donc c'est ma particularité et probablement singularité de chorégraphe. Ouais. C'est que de par cette déficience visuelle, j'interroge aussi le fait de comment j'accueille ce public particulier au sein de la salle de spectacle. Et là, pour la pièce qui va arriver vendredi, c'est notamment de se dire comment on peut envisager une forte proximité avec un accueil de certaines personnes sur le plateau, donc assez proche des danseurs.
Donc vous le dites, l'espace semble être du coup quelque chose d'extrêmement important à prendre en considération. Il me semble que la musique aussi, vous avez travaillé avec Clément Mandin pour la composition musicale. Pourquoi est-ce que vous avez fait appel à lui ?
Donc vendredi, on va présenter une pièce qui s'appelle Nuit, qui est ma première pièce collective, qui met en jeu 5 danseurs interprètes au plateau. Et pour cette pièce-là, j'ai proposé donc au compositeur Clément Mandin de venir vraiment créer la bande son, la bande originale du spectacle, qui dure 50 minutes. Et pour imaginer cette bande son, on est allé chercher dans une pièce ancienne qui s'appelle le Ballet Royal de la Nuit, qui est une pièce d'Isaac de Benserade qui a été écrite en 1653 pour le roi et la cour du roi Louis XIV. Donc on est dans une esthétique historiquement baroque. Mmh. Et Clément, il a chopé quelques partitions originelles et on en a extrait notamment un instrument qui s'appelle la viole de gambe. Et donc il y a vraiment cette viol qui revient à certains moments dans la création contemporaine de Clément. Il y a vraiment cet instrument ancien qui revient. Et après, voilà, plein de choses qu'on a connectées avec la dramaturgie et l'écriture du spectacle. Mais ça a vraiment été l'enjeu, c'était de se dire comment on crée ce lien avec cette pièce ancienne du XVIIe.
Vous avez évoqué au début aussi l'importance d'être en relation avec le spectateur. La mise en relation est importante, notamment à travers l'espace, justement. Est-ce que vous pouvez peut-être aussi un peu approfondir cette notion de l'espace ?
Alors, la question de l'espace, donc c'est, moi je suis à ma quatrième création. Il y a eu un solo, alors ça me permet de faire la petite parenthèse avec cette présence à Brest, puisque mon solo il date de 2019 et la première représentation du solo, elle a eu lieu au Macorlan en 2019. Donc il y a vraiment cette histoire qui s'est écrite avec ce lieu-là aussi depuis plusieurs années. Ensuite, deux duos sont arrivés, dont un qui a aussi été présenté au Macorlan en 2022. Donc on arrive finalement là cette année avec une troisième pièce qui est présentée sur la scène du Macorlan. Donc j'en suis bien rendu à trois pièces au Macorlan, mais il y en a une quatrième. Et donc ça, j'en parle puisque c'est le duo Soculus qui a été conçu dans un espace de 2 mètres par 3 où l'enjeu était vraiment de se dire comment on permet au public d'être extrêmement proche de la représentation. Et ça répond à un des enjeux que moi j'ai et des questionnements que j'avais moi en tant que spectateur, de me dire quand j'accède moi à une représentation, il y a des fois où peut-être que j'aimerais, au-delà d'une audiodescription, qu'on me permette vraiment de sentir les respirations, le bruissement des différents sons des corps. Et donc ça fonctionne quand on est en forte proximité. Donc sur Soculus, on a activé ça. Sur mon solo Sans se cacher en 2019, il y avait également la possibilité pour le public d'être proche de moi, donc en l'occurrence c'est moi qui interprétais ce solo, donc les personnes étaient vraiment en forte proximité. Et encore une fois là, dans Nuit, la pièce qu'on m'a présentée vendredi, il y a encore la possibilité pour certaines personnes de pouvoir s'installer vraiment sur la scène, vraiment très proche de la représentation. Il y a vraiment cet enjeu de l'espace qui à chaque fois est re-questionné dans le travail et les choix que je fais au niveau dramaturgique.
Vous avez parlé du coup du spectacle qui sera en audio description. Comment est-ce que ça marche exactement ?
Alors l'audiodescription, au départ, c'est... Alors moi, je ne suis pas audiodescripteur, mais en tout cas, l'expérience que j'ai, c'est d'avoir travaillé depuis plusieurs années avec des audiodescripteurs. À la base, ça a été créé pour le cinéma, l'audiodescription. Et puis à un moment donné, c'est arrivé pour notamment le spectacle vivant et pour la danse. Donc il y a certains audiodescripteurs qui se sont vraiment spécialisés pour décrire la danse. Donc il s'agit tout simplement de proposer à une personne déficiente visuelle d'avoir pendant la représentation un casque, et dans ce casque il y a vraiment une description de ce qui se passe au plateau, du mouvement des danseurs qui peuvent être décrits par le texte de l'audiodescripteur. Donc c'est évidemment un travail qui est mené avec moi, puisqu'on est dans un vocabulaire qui va être extrêmement proche du vocabulaire que moi je pourrais utiliser quand je travaille avec les danseurs. Et là, dans Nuit, on a travaillé avec une audiodescriptrice qui s'appelle Julie Compan. Donc elle est venue nous voir en représentation, et puis on s'est mis d'accord sur, non pas chaque mot, mais presque. C'est-à-dire qu'on s'est dit comment on a envie de donner cette texture-là, c'est-à-dire que des personnes déficientes visuelles, elles vont choper probablement le son des corps, elles ont le son évidemment de la bande-son, il y a les respirations, déplacement de l'air, quand on est non-voyant, il y a vraiment quelque chose aussi qui s'active, et en plus il y a cette couche de l'audiodescription, donc quel vocabulaire on a envie de partager avec ces personnes-là. Donc ça, c'est autant de questions qu'on s'est posées, et voilà, à un moment donné, on a mis un point, et Julie a créé cette audiodescription, et elle sera disponible vendredi pour des personnes déficientes visuelles.
Et justement, je vous propose, avant de continuer cet échange, d'écouter un extrait du spectacle Nuit que l'on pourra donc retrouver vendredi au Macorlan. Thank you. Vous avez tout à l'heure parlé, vous êtes revenu sur le lien étroit que vous avez avec le Macorlan, parce que vous avez déjà eu l'occasion d'y venir trois fois. C'est un peu une question aussi que je voulais vous poser. Votre parcours, en fait, en tant que chorégraphe, est-ce que vous pouvez revenir sur votre parcours en tant que chorégraphe?
Donc moi, j'ai un parcours qui a démarré à l'âge de 6 ans par la danse. Okay. Et puis, assez rapidement, je me suis rendu compte que ce n'est pas la danse qui m'intéressait, c'était le théâtre. Et donc, j'en ai fait pendant plus de 10 ans jusqu'au bac. J'ai présenté le théâtre au bac. Mais finalement, je me suis dit que ce n'était pas le théâtre qui me plaisait, c'était bien la danse. Okay. Donc, au lycée, tranquillement, je me suis remis à pratiquer vraiment la danse. Et puis, c'est finalement assez récemment, dans les années, enfin, en 2019, et puis un petit peu avant, en 2015, avec la création de la compagnie, où je me suis dit, j'ai vraiment envie de m'engager, moi, dans une démarche et de créer des pièces plateaux. Et donc là, il y a vraiment eu cette bascule où je me suis mis vraiment dans cette nouvelle posture de chorégraphe. Donc, au-delà d'être interprète, parce que je suis encore interprète pour des projets, là, il y a vraiment eu, j'ai eu cette envie, en tout cas, de chorégraphier. Donc, il y a vraiment cette bascule-là. Et vous parliez du Macorlan, bah, c'est quand même un des lieux ça fait partie quand même des lieux, à un moment donné, qu'on dit, on te suit aussi dans l'engagement que ça peut demander d'accompagner un artiste au départ dans des premières préfigurations de projets. En 2019, ça fait partie des lieux que dit on y va, on t'accompagne sur ce solo. Et puis ensuite, voilà, il y a eu deux autres pièces, Socus, et puis ensuite Nuit, évidemment. Donc au-delà des représentations qu'on a eu la chance de faire au Macorlan, c'est aussi des semaines de résidence, puisqu'à deux reprises, on est venu travailler avec les équipes techniques du Macorlan, et notamment la pièce que j'espère que vous aurez l'occasion de découvrir vendredi au Macorlan. Il reste d'ailleurs des places, hein, j'en parle là à ce moment-là. Cette pièce-là, la scénographie, elle a été vraiment testée, explorée, expérimentée au Macorlan. Donc ça a démarré vraiment à ce moment-là. Donc c'est quand même pas anodin aussi dans le parcours et de mon parcours et du parcours du projet aussi.
Justement, l'adaptation de la scénographie du spectacle, justement du fait doit pouvoir s'adapter du fait de ne pas avoir certains repères visuels. Et il y avait quelque chose que je trouvais très intéressant. Vous disiez que c'est possible, par exemple, en prenant en compte les respirations, le souffle. Comment est-ce que, au fur et à mesure du temps, vous réussissez à adapter tout ce travail d'adaptation? Comment est-ce qu'il fonctionne, tout ce travail d'adaptation?
Alors, au niveau de l'adaptation, ça peut être... Alors, moi, je n'ai pas l'impression d'adapter mes pièces pour la déficience visuelle, mais c'est vrai que je considère, dès l'origine du projet, que je me donne les moyens, en tout cas, que ce public-là puisse être accueilli. Et non pas accueilli simplement parce qu'on a pensé une audiodescription et que ces personnes pourraient être assises confortablement dans la salle de spectacle. Mais au-delà de ça, c'est que je me dis où ces personnes vont pouvoir s'asseoir et qu'est-ce qu'on va leur proposer en plus. Donc là, il y a vraiment eu tout ce travail, notamment de la spatialisation du son. Donc c'est Jérôme Boudot qui est juste dans la petite boîte à côté, qui donc a fait ce travail. Donc c'est au-delà de la création sonore de Clément Mandin, c'est qu'après Jérôme, il est arrivé, lui, pour spatialiser. Et pour moi, ça répondait à vraiment une de mes zones d'interrogation, puis une de mes envies fortes, c'est de se dire comment on peut rapprocher le public du danseur. Et par le son, j'ai cette sensation que pour Nuit, on réussit quelque part à perturber un peu les distances entre la scène et la salle, et entre les artistes et puis et les spectateurs. Et là, on est complètement au cœur de ma démarche de créateur. Donc,
c'est justement de vouloir créer une immersion, en fait, entre scène et salle.
J'ai souvent ce terme-là qui vient, la dimension immersive du travail. Mmh. Donc, c'est de se dire que quand on vient assister à une représentation, on va un peu chercher au-delà de la partie visuelle. On est aussi sur quelque chose qui va se passer, je pense, sur le sonore. Et puis, voilà, peut-être d'autres choses peuvent s'activer. Mais c'est que j'ai vraiment envie de me dire, peut-être le visuel, on le met un peu de côté. Mmh. Et c'est souvent, pour pour le coup, cette chose-là qui arrive en premier, pourtant, quand on va voir de la danse, souvent, on a envie de voir les corps se déplacer sur un plateau. Et là, moi, j'ai envie d'essayer de penser qu'on peut peut-être choper autre chose.
Pourquoi ce choix de la vie nocturne ?
D'ennui, on est parti sur... je suis parti sur l'écriture d'un projet qui reprend essentiellement, déjà, dans un premier temps, une expérience personnelle qui est de... vive, moi, à mon endroit, avec ma déficience visuelle, une certaine difficulté de déplacement dans l'espace public quand il fait nuit. Donc, vraiment, la nécessité d'être soit accompagné, soit de me déplacer avec une canne blanche dans l'obscurité. Et ça, je l'ai partagé assez vite avec d'autres personnes qui peuvent être soit déficientes visuelles, soit non-voyantes, vraiment de leur rapport à la nuit. Comment elles se représentent et comment elles se spatialisent ce moment particulier de la nuit. Ça a duré comme ça plusieurs années, des entretiens, et à un moment donné, je me suis dit que peut-être, au-delà de ma propre expérience, il y avait peut-être quelque chose à envisager autour de cette thématique. Et ça s'est croisé, j'en ai parlé tout à l'heure, avec la pièce d'Isaac de Mansrad, le Ballet Royal de la Nuit, qui lui, en 1653, écrit une pièce qui relate vraiment de ce moment particulier de la nuit. Et ce qui m'a plu dans l'écriture de Mansrad, c'est que Mansrad, il écrit sa pièce en 4 parties qui durent chacune la même durée. Donc ça organise et ça cloisonne comme ça la nuit avec une dramaturgie extrêmement claire. Et les entretiens moi, que j'ai pu mener en parallèle avec des personnes déficientes visuelles, elles m'ont aussi raconté que la nuit, pour eux, ça s'organise de manière très précise, avec des temps dédiés, et que finalement, elles arrivaient, pour certaines, à choper un taux de luminosité juste parce qu'elles avaient conscience qu'à cette heure-là, à tel moment de l'année, il fait telle luminosité. Mmh. Et donc ça m'a énormément intéressée. Je me suis dit qu'on pouvait creuser et en faire un spectacle. Donc je suis vraiment partie de ça. C'est à la fois un mélange entre et une expérience personnelle et des rencontres que j'ai pu faire.
Il y a aussi la notion, le rapport au corps de l'autre qui vous intéresse, car dans la danse, vous serez accompagné de 5 danseurs et danseuses.
Alors, d'ennui, moi, je ne suis pas interprète. Donc, c'est la première fois que dans une pièce de la compagnie, je ne danse pas. C'était un vrai choix de se dire, là, je suis complètement extérieur. Et donc, ce sont 5 danseurs à qui j'ai proposé de faire partie de cette aventure. Donc, la chose qui est un petit peu différente de ce qui a pu se passer dans les autres pièces de la compagnie, c'est que là, d'un coup, il y avait la question du regard. Quel regard je pouvais porter sur une pièce dans laquelle je ne danse pas, et comment on peut préciser un geste quand c'est accompagné par un chorégraphe qui, lui, est concerné par le handicap visuel. Donc, il y a eu des vraies recherches et des interrogations et des échanges nourris entre l'équipe et moi pour écrire cette pièce. Et quand j'ai pu, moi, il y a quelques années, être interprète au sein de pièces, les questionnements étaient tout autres. C'est-à-dire, c'est comment, moi, je dois trouver des repères pour accéder au plateau, comment sécuriser le plateau. Donc, c'est passé par tout un tas de dispositifs scéniques qui ont permis de moi me sécuriser. C'est-à-dire, je pense notamment sur le solo. On avait mis en place un système de cordelettes qui était planqué sous du scotch noir, mais qui clairement, moi, sécurisait mon espace de déplacement, et donc ça évitait de tomber du plateau, parce qu'au Macorlan, il n'y a pas de hauteur de scène, mais il y a quand même la majorité des théâtres, c'est le cas. Donc ça permettait quand même d'être assez sécurisé là-dessus. Donc c'est tout un tas d'outils, ça peut être des outils sonores. Dans Soculus, on a, comme je disais tout à l'heure, on avait borné l'espace en 3 mètres par 2 avec vraiment un ressenti plutôt à l'écoute des corps et à l'écoute des respirations qui fait qu'on arrivait à se rencontrer autrement. Mais voilà, les choses sont sûrement différentes entre le moment où j'ai pu être interprète et puis là où je suis plus à l'extérieur.
Eh bien, merci beaucoup Nathan Arnaud d'être venu nous présenter votre spectacle Nuit qu'on retrouvera donc vendredi au Macorlan.
C'est moi qui vous remercie, bonne soirée.
Are you true? Are wishes do come true. All I'd ask for is my dreams to dream of you. Is my love in place of someone else? I'll find I could be is be love itself. In my mind, dreamers dreaming is all.
Et maintenant, nous parlons d'une initiative pour permettre la coexistence du loup avec les éleveurs. Le programme s'appelle Pastora Loup. Des bénévoles engagés pour la protection des loups aident des éleveurs et des bergers à protéger les troupeaux pour éviter les attaques. Cette initiative débute en Bretagne. Pour nous en parler, nous recevons Agathe Lefranc, bénévole de l'association FERU, l'association nationale pour la défense et la sauvegarde des grands prédateurs. Bonjour Agathe.
Bonjour.
Vous coordonnez l'organisation Pastora Loup en Bretagne avec une autre bénévole et c'est Audrey qui va vous interviewer.
Bonjour Agathe. Le loup est présent en Bretagne. Il a été vu sur le territoire breton en mai 2022 dans les Monts d'Arrée. Fin 2024, l'Office français de la biodiversité, l'OFB, a estimé qu'il y avait 1013 loups en France. Aujourd'hui, à combien on estime le nombre de loups en Bretagne? Et comment on s'aperçoit qu'ils sont là?
Alors, c'est difficile de donner un chiffre exact parce que il est très discret. Ils sont très discrets, on peut quand même dire qu'ils sont plusieurs. En gros, officiellement, on en a identifié un, l'Office français de la biodiversité, l'OFB, on a identifié un via ses crottes et une analyse génétique. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, il avait déjà été identifié en Allemagne et en Belgique. Donc, il a fait un peu de route pour arriver chez nous. On sait qu'il y en a eu au moins un deuxième identifié génétiquement, parce qu'il y en a un qui a été retrouvé mort, et du coup, ce n'était pas le même. Et ensuite, pour préciser un petit peu, on a des collègues du groupe Loup Bretagne qui, eux, s'intéressent aux photos qui sont prises par les différentes caméras automatiques qui peuvent être laissées dans la nature. Et ils essayent de voir les différents loups photographiés en observant toutes les petites différences morphologiques, de couleurs. Et eux, ils estiment qu'ils en ont observé 6 différents. Donc, on a entre eux... Allez, pour être raisonnable, entre 2 et 8 loups probablement qui sont passés par la Bretagne depuis mai 2022. Mais on ne sait pas combien il y en a aujourd'hui.
Le programme Pastora Loup, du coup, débute ce mois-ci en Bretagne. Quel est l'objectif du programme ? Il répond à quel besoin ?
Alors l'idée, c'est de faciliter la cohabitation avec le loup, notamment en aidant ceux pour qui le retour du loup pose quelques difficultés, c'est-à-dire les éleveurs. Donc en gros, l'idée, c'est de renforcer la présence humaine aux côtés des troupeaux, des éleveurs volontaires bien sûr, pour limiter la prédation éventuelle des loups. Parce que aujourd'hui en Bretagne, notamment dans les monts d'Arrée et dans le secteur, on constate les déprédations sur les troupeaux, ovins, même bovins parfois.
Et en quoi la présence humaine dissuade le loup ? Est-ce que c'est pas dangereux de... en tant qu'humain, d'être en présence de loups.
Un scoop, le loup a peur de nous. Souvent, l'inverse est vrai aussi, malheureusement, mais on n'a pas grand-chose à en craindre, nous. Le loup est un animal craintif vis-à-vis de l'homme, donc rien que de sentir notre présence autour du troupeau va limiter en fait sa présence et donc les prédations.
Est-ce que pour vous, le programme Pastora Loup, la présence du coup de bénévoles autour des troupeaux, est-ce que c'est la solution ? Est-ce que c'est une complémentarité avec d'autres actions ?
Alors, c'est une goutte d'eau, parce que c'est un vaste sujet, le loup et le monde de l'élevage. Si on creuse un petit peu, c'est vraiment quelque chose de très complexe. Nous, on est persuadés que la coexistence est possible, mais on reconnaît néanmoins que ça change vraiment des choses pour les éleveurs, que ça remet en cause pas mal de pratiques. Ça veut dire se protéger. Alors, on croit pas mal en différents moyens de protection, notamment les chiens qui peuvent protéger les troupeaux, les clôtures et la présence humaine. Il y a des aides de l'État. Quand le loup est reconnu présent sur un territoire, il va y avoir des aides qui permettent d'essayer de pallier à tout ça. On sait qu'il n'y a aucune action 100% efficace. Mais pour nous, la présence humaine est vraiment importante, notamment dans notre territoire breton, où c'est ce qu'on appelle un territoire de dispersion. Le loup n'est pas encore complètement installé, il n'y a pas de meute, il y a des loups, a priori, tout seuls, des loups dispersants, qui cherchent un peu leur territoire. Et du coup, ça peut être n'importe où, on ne sait pas exactement. Enfin, en gros, ils se déplacent beaucoup, on ne sait pas du tout où ça va arriver. C'est dur à prévoir. Et surtout, chez nous, les éleveurs ne sont pas encore tout à fait prêts. La chose est arrivée un petit peu vite. On s'attendait au retour du loup, mais pas tout de suite. Et du coup, ils ne sont pas encore équipés. Donc, on pense vraiment que d'aller mettre un petit peu plus de présence auprès des troupeaux, si un éleveur se sent inquiet d'un seul coup parce qu'il a eu une attaque, parce que son voisin s'est fait prédater, parce qu'il a entendu dire qu'il y avait un loup qui avait été vu dans le coin, on espère apporter un petit coup de pouce, à la fois techniquement, mais aussi en fait moralement, que les gens ne se sentent pas seuls et qu'on puisse lui permettre d'aller dormir de temps en temps, tout simplement.
Et le programme, du coup, il a commencé dans les Alpes, il y a 20 ans. Il s'est étendu au Jura. Quels sont les résultats, les retours que vous avez par rapport au programme ?
Et du coup, les résultats sont très très bons. En 2024, sur tout l'ensemble des nuits de garde, il y a eu 0 prédation enregistrée. Je parle des Alpes, donc la situation n'est pas la même que chez nous. Donc du coup, oui, on sait que c'est efficace. Ça marche bien. Voilà. Mais encore une fois, c'est pas la solution ultime pour gérer le loup en France. On peut pas mettre des bénévoles auprès de tous les troupeaux. C'est un coup de pouce, on fait ce qu'on peut. Mais ça marche en tout cas.
Et est-ce que ça change le regard aussi des éleveurs peut-être sur le loup ?
C'est un autre aspect qu'on trouve super intéressant dans ce projet, c'est qu'en fait, souvent il y a le sujet du loup, comme tant d'autres, est un sujet hyper clivant et des fois les gens, on va dire les pros et les opposants, ont vraiment des avis complètement divergents et ont des fois du mal à s'écouter, à s'entendre. Et là, le fait de mettre des bénévoles aux côtés des éleveurs, ça aide à relativiser dans les deux sens, en fait. Les bénévoles se rendent compte, parfois arrivent avec une vision un peu « Oh, le loup, c'est super, c'est facile, il n'y a qu'à mettre des gens, il n'y a qu'à mettre des chiens. » Et les éleveurs, à l'inverse, sont forcément très, très farouchement opposés. Et finalement, on recrée un dialogue entre ces deux univers. Et des fois, ça fait des jolies rencontres et des jolies réflexions dans les deux sens.
Pourquoi le loup, il est important dans notre écosystème, avant de rentrer plus en détail dans le programme Pastoral Loup ?
Et alors, toujours la grande question, à quoi ça sert ? Alors, je dirais bien qu'il y a le côté un peu philosophique de la chose où il est là, il a le droit d'exister comme nous. Si on veut éradiquer tout ce qui nous dérange, on finira tout seul, hein, à plus ou moins long terme. Donc pour moi, il existe, il faut faire avec. Et si on prend le côté un peu plus écosystémique de la chose, le loup est un grand prédateur, il est au sommet des chaînes alimentaires. Et du coup, il a son rôle à jouer. On parle souvent de loup régénérateur des forêts, puisqu'en fait, il va consommer des proies. Alors on l'imagine toujours attaquer des proies domestiques, mais la plupart de ces aliments, c'est quand même des proies sauvages, hein, donc les ongulés sauvages, type chevreuil, sanglier, cerf, et ces animaux-là, donc les sangliers notamment, mais les autres aussi dans certains coins, peuvent être trop nombreux en fait pour permettre aux jeunes arbres de repousser. Parce que s'il n'y a pas de prédateurs, donc ils sont très nombreux, et en plus, ils sont tous concentrés aux mêmes endroits. Ce qui fait que du coup, il y a des endroits où vraiment la forêt va avoir du mal à se régénérer. La présence du loup va déjà un petit peu réguler les proies, va assainir les populations aussi, puisqu'ils vont s'attaquer aux animaux malades, aux animaux plus âgés. Il y a un côté sanitaire, hein, vraiment, où du coup, il empêche de proliférer les maladies, en quelque sorte. Et puis aussi, il y a un effet, la peur du prédateur, qui va faire que le comportement des proies va changer. Elles vont être plus vigilantes, elles vont former des plus petits groupes, elles vont beaucoup plus se déplacer. Et ça, c'est super en termes de gestion des espaces. Ça permet encore une fois une régénération meilleure des végétaux, le fait que les animaux soient plus vigilants.
Et il me semble qu'il y a des inquiétudes par rapport au statut de protection du loup, qui sera peut-être révisé. Actuellement, c'est strictement protégé. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus ?
Oui, tout à fait. Alors, en ce moment, le loup n'est pas trop à la mode, hein, que ce soit au niveau national et européen. Et en fait, au niveau de l'Europe, il y a eu récemment un vote, hein, pour déclasser le loup, le faire descendre d'un cran et effectivement passer d'espèce strictement protégée à espèce protégée. Donc ça a été voté. Il y a encore des éventuels recours qui peuvent être faits, mais néanmoins, ça a été acté. Et ensuite, ça va être décliné au niveau des États, dans les droits nationaux. Et en France, dans le pire des cas, le loup pourrait passer d'une espèce strictement protégée à une espèce chassable, avec un plan de chasse. Donc là, évidemment, en termes de conservation de l'espèce, on peut s'inquiéter très fortement, parce que déjà, en tant qu'espèce strictement protégée, aujourd'hui, on a le droit de tirer 20% de la population de loups en France. Donc à peu près 200 loups par an. Donc on imagine que si le statut descend, c'est la porte ouverte à plus de tirs, sachant que depuis l'année dernière, la population décroît, en fait. Alors, c'est relativement stable, mais depuis l'année dernière, on a une décroissance de la population de quelques individus dans les estimations. Et surtout, les scientifiques alertent un peu sur l'état de conservation de cette population sur le plus long terme, à moyen long terme. Donc oui, c'est une grosse, grosse inquiétude. D'autant plus que si le loup devient chassable, on aura du mal à imaginer que l'État va continuer à aider les éleveurs. Et là, du coup, c'est un peu catastrophe pour tout le monde. Les éleveurs vont se trouver vraiment démunis face à la prédation qui va continuer, hein, même si le loup est chassable. Et évidemment, côté écologie, on n'est pas très content non plus, quoi. Les chasseurs, peut-être, seront contents. Certains encore, parce qu'il y en a qui aiment bien les loups.
On va s'intéresser du coup à Pastoral ou Bretagne. Ce sera dans quel secteur et combien d'éleveurs sont inscrits au programme, on va dire?
Alors pour le moment, le programme n'a pas encore démarré puisqu'on forme nos bénévoles le week-end prochain. Donc il y a 35 à peu près, ouais, 33 si je veux être très précis, 33 bénévoles qui vont être formés pour justement se mettre un peu à l'aise avec la problématique du loup, connaître un peu le contexte local, les conduites à tenir face aux animaux domestiques, face aux chiens, face aux troupeaux. Et du coup, pour le moment, on a 15 éleveurs déjà engagés et qui ont montré leur intérêt pour accueillir des bénévoles du programme. Et ensuite, pour le moment, c'est la première année, donc on n'a pas trop d'idées. On ne sait pas encore à quel point les éleveurs vont faire appel à nous. Mais voilà, nous, l'idée, c'est vraiment de répondre aux inquiétudes de tous. Hein. Férus est apolitique sur le point de vue des éleveurs. On est prêt à aider tout le monde, peu importe les syndicats agricoles, peu importe la vie des éleveurs. On n'est pas là, en fait, dans Pastoralou, pour militer. Hein. On est vraiment là pour donner un coup de main. Notre avis, on le garde dans notre poche pendant le temps du coup de main. Et du coup, si évidemment, si l'éleveur veut en parler, on en parle. Mais si le sujet n'est pas abordé, c'est pas du tout la priorité. Donc, suspense, en fait, on sait pas trop encore. Pour le moment, au moins 15 éleveurs.
Au moins 15 éleveurs. Et dans quelle zone géographique ils se trouvent en Bretagne?
Alors, pour le moment, on a un petit peu centré les premiers contacts sur les monts d'Arrée, puisque c'est le secteur où les loups sont observés le plus fréquemment depuis 2 ans. Il y a eu d'autres secteurs, alors du Finistère surtout, mais l'actualité commence à repartir aussi un petit peu dans les autres départements bretons depuis quelques semaines. Là. Mais globalement, pour le moment, les contacts qu'on a pris, c'est plutôt dans les monts d'Arrée, parce que c'est les personnes impactées jusqu'à maintenant. Donc, mais après, ça peut être ouvert. Les bénévoles formés viennent de toute la Bretagne. Donc on peut imaginer prêter main forte à un éleveur, même en Ille-et-Vilaine, s'il a besoin. On imagine que ça se passera plutôt dans le Finistère pour cette première année.
Ça veut dire que les bénévoles voyagent pour venir jusqu'en Bretagne pour le programme?
Oui, il y a des bénévoles très locaux et des bénévoles moyennement locaux, des bénévoles bretons à plus grande échelle. Et du coup, effectivement, ça peut être des gens qui bougent un petit peu. En gros, vous imaginez, on demande aux gens une certaine disponibilité. Donc, en gros, soit c'est des gens très locaux qui peuvent venir passer la nuit près du troupeau et vaquer à leurs occupations quotidiennes pendant la journée, soit c'est des gens qui ont vraiment du temps libre, qui viennent de plus loin, mais qui peuvent se permettre de rester plusieurs jours dans le secteur.
Et que font les bénévoles, du coup, pendant ces temps de soutien? Est-ce que c'est rester près des troupeaux? Est-ce qu'il y a d'autres actions?
Alors, on aime bien dire rien, juste ils sont là. Du coup, en fait, c'est la présence humaine qui est vraiment importante. Bon, concrètement, on va quand même, vu qu'on est là et qu'on dort à côté du troupeau, on peut effectuer quelques rondes pour voir si tout va bien pendant la nuit. Mais en gros, c'est vraiment ça. Hein. C'est dormir, planter la tente à proximité du troupeau, être là, faire des petits tours pour marquer notre territoire, nous aussi, laisser notre odeur. Hein. Voilà, on dit aux bénévoles de ne pas hésiter, même s'ils veulent aller faire pipi dans la haie à côté du troupeau, c'est très bien. Voilà, donc en gros, on leur demande de faire un petit tour la nuit, d'aller faire pipi près des clôtures et de dormir tranquillement dans leur tente.
Est-ce que ça a été facile de trouver des personnes pour le programme?
Oui, c'est une chouette surprise pour nous. C'est vrai que autant le côté alpin, on sait que c'est assez vendeur hein, d'aller passer une semaine, 15 jours auprès d'un berger au fin fond des Alpes. Le côté dormir près d'un troupeau en Bretagne avec la météo qu'on nous connaît. Voilà, des fois c'est chouette, hein, mais des fois c'est un peu moins vendeur, on va dire. Et oui, les bénévoles répondent très présents. On n'a vraiment eu aucun mal à trouver les 35 premiers partants. Ce qu'on constate, en fait, c'est que les gens sont contents de faire quelque chose de concret. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se réjouissent du retour du loup. Mais quand on creuse un peu le sujet, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas si simple pour tout le monde. Et c'est chouette de pouvoir mettre la main à la pâte et de se sentir utile. Si on veut que ça se passe bien, faut aider ceux pour qui c'est compliqué.
Et qu'est-ce que vous apprenez exactement? Vous avez un petit peu mentionné quelques trucs, mais est-ce que, comme ça dure 5 jours, il me semble, la formation, qu'est-ce qu'on apprend? C'est 5 jours ou c'est moins?
Chez nous, c'est un week-end. En fait, ouais, ça dépend. Parce que dans les Alpes, c'est des formations. La formation est plus longue, hein, elle dure la semaine, parce qu'il y a le contexte est un petit peu différent. Déjà, les bénévoles vont parfois partir en alpage avec le berger pendant une semaine, 15 jours, 3 semaines. Donc il y a le côté montagne en fait à appréhender aussi, que chez nous, ben, c'est quand même, voilà, c'est pas le même contexte. Et ce qu'on leur apprend, ben, c'est vraiment justement un peu ce contexte général autour du loup, la difficulté de coexistence avec l'élevage. On va après utiliser concrètement le matériel dont on aura besoin sur place, notamment apprendre à installer des filets de protection. Donc c'est des clôtures hein, qu'on peut électriser. On essaye d'arriver avec ça dans les bras pour, pareil, en coup de main à l'éleveur en période de crise un peu, hein, s'il n'est pas encore équipé. Donc ça, c'est chouette si le bénévole peut mettre la main à la pâte et aider l'éleveur à installer les filets. On va aussi avoir des petits dispositifs d'effarouchement, hein, les Fox Light. Donc c'est des dispositifs lumineux qui envoient des lumières un peu de toutes les couleurs de manière aléatoire. Ça fait un peu boîte de nuit pour vous montrer à quoi ça ressemble. Mais du coup, ça peut effaroucher les loups pendant quelques jours, après ils s'habituent. Hein. Mais voilà, on apprend à manipuler tout ce matériel. On a aussi des jumelles à vision nocturne. Donc voilà, on fait le tour un peu de ce qu'il faut faire. Et on va visiter aussi des éleveurs. Ça, c'est super important. Et c'est les éleveurs qui vont nous expliquer leurs besoins, leurs ressentis, qui vont nous apprendre. Enfin, on va chez un éleveur bovin, un éleveur ovin. Donc, il y a des bénévoles hein, qui sont complètement citadins, qui ne connaissent pas du tout ce monde-là. Donc, c'est chouette de pouvoir les confronter aux animaux hein, pour savoir comment se comporter avec un troupeau de vaches ou de moutons. Ce n'est pas forcément inné. Pareil avec les patous. Il y a des règles à respecter hein, pour que ça se passe bien avec les chiens qui sont là pour défendre le troupeau, qui, dans leur tête, font partie intégrante du troupeau. Donc, de la même manière que les randonneurs, au cours de leur balade, doivent respecter des choses, nous aussi, en tant que bénévoles, on doit apprendre à respecter les chiens et à bien se comporter avec eux. Donc, on apprend tout ça.
Et quel a été l'accueil des éleveurs en Bretagne par rapport au programme ? Parce que vous êtes vraiment dans le rapprochement, en fait, avec tous les éleveurs.
Alors, pour le moment, l'accueil est plutôt bon. C'est vrai que mon collègue, du coup, est parti rencontrer individuellement les gens, en fait. Hein. Il a pris son téléphone, il a appelé chacun, il est allé rencontrer. Donc, c'est souvent de l'échange de 1 à 1. Donc, on a le temps d'échanger. Dans l'ensemble, on arrive quand même avec une démarche qui est un peu qui est positive pour eux. Donc, tous reconnaissent ça. Pour le moment, il y a des gens qui ne pensent pas du tout en avoir besoin. Mais voilà, l'accueil est plutôt bon. On n'a pas d'opposants jusqu'à maintenant. On croise les doigts.
Parce que qu'est-ce que ça implique pour l'éleveur ? Est-ce qu'il paye quelque chose ?
Pas du tout. Non, en gros, ça implique pas grand-chose. Juste qu'il soit OK de nous accueillir. Et voilà, et ce qui peut être un peu compliqué pour certains, c'est que Férus est une asso de protection des grands prédateurs. Donc, si certains sont fermement opposés à la présence du loup, souhaitent qu'il soit chassable et font partie d'un syndicat agricole qui est ouvertement opposé au loup, ça peut être difficile, à titre individuel, d'accueillir un bénévole. Ils peuvent se sentir un peu, mince, on pactise avec l'ennemi. Or, nous, évidemment, on n'est pas du tout dans cette optique-là. Encore une fois, on souhaite aider tout le monde, même... Voilà, même les éleveurs de syndicats qui sont pas forcément sur la même ligne que nous, sur le côté plus politique. Mais ça, c'est un autre débat. Mais globalement, ici, à l'échelle de la Bretagne, on ne ressent pas du tout ce phénomène-là. Ça a pu être ressenti dans les Alpes, parfois.
Est-ce que vous aurez besoin de plus de bénévoles ?
Alors, on espère pouvoir, si ça fonctionne bien, on va reformer des bénévoles dès l'an prochain. Donc, oui. oui, on aura besoin de monde, probablement d'ici là.
Est-ce que vous auriez une recommandation pour des personnes qui aimeraient un peu plus s'informer, un documentaire, un livre pour
Il y en a plein. Alors pour ce qui se passe en Bretagne, donc il y a les collègues du groupe Loup Bretagne qui ont fait un super site internet avec une super foire aux questions et où il y a pas mal d'actu. Donc pour les locaux, c'est assez chouette d'avoir toutes ces infos-là. Évidemment, il y a le site internet de Férus où à l'échelle nationale, il va y avoir beaucoup de choses aussi. Pour tout ce qui est grand public, il y a une trilogie au cinéma qui a été faite par Jean-Michel Bertrand, un réalisateur qui a fait un triptyque. Hein. Le premier, c'est Vivre avec les loups. Il a simplement été filmé les loups revenus dans la vallée de son enfance. Puis un deuxième tome, Marche avec les loups, qui explique le phénomène de dispersion. Ce qui explique comment les loups sont arrivés jusqu'à nous en Bretagne, hein, puisque il n'y en avait plus en France, et ils reviennent naturellement, on insiste bien là-dessus, c'est pas des loups réintroduits, ils reviennent naturellement. Et il explique tout ça dans son deuxième documentaire. Et le troisième est complètement en accord avec ce qu'on raconte jusqu'ici, puisqu'il s'appelle « Vivre avec les loups », et le sujet, c'est la coexistence. Et voilà, tous les frictions que ça peut occasionner, il va voir tous les acteurs, il parle de tout ça, Et puis, ben, il parle même de notre pastor à loup, puisque, ben, voilà, en termes de coexistence, je crois que c'est quand même un chouette exemple.
Merci beaucoup. Du coup, pour ceux qui seraient intéressés, le programme s'appelle Pastor à loup et c'est l'association Ferus, F-E-R-U-S, qui est à l'initiative de Pastor à loup. Merci beaucoup.
Merci.
Nous sommes toujours sur La Quotidienne en compagnie de Gwen pour sa chronique. Salut Gwen.
Bonsoir.
Cette semaine, tu nous parles du tout dernier film de Luca Guadagnino intitulé Queer. C'est l'adaptation du roman du même nom écrit par l'une des figures de la Beat Generation, William S. Burroughs. Il fait du désir homosexuel poussé à son paroxysme une expérience transcendantale.
Dans les rues du Mexico des années 50, un homme mûr, vagabonde, dans les bars gays de la ville, à la recherche de plaisirs fugaces. C'est l'occasion de dépeindre le milieu queer qui est comme un écosystème à part entière, avec ses codes, ses ragots et ses personnages stéréotypés, toujours flamboyants. Jusqu'à la rencontre avec un être divinement beau, joué par Drew Starkey, allégorie d'une jeunesse insolente, il va devenir la proie d'un désir insatiable. Le désir, comme l'obsession de Luca Guadagnino et de son cinéma, entièrement dirigé vers une célébration de corps masculin idéalisé, qui se mue en objet fétiche. L'homosexualité n'est pas simplement suggérée, mais bien représentée dans toute son ardeur, à travers des scènes de sexe torrides, extrêmement crues. Mais il n'est pas question que du désir assouvi, il est aussi question de la libido contrainte, quand le partenaire fuyant, comme une proie qui s'échappe, provoque toutes les frustrations. Mais parler du cinéma de Guadagnino, c'est avant tout parler de la photographie et des décors, une mise en scène qui trouve en elle sa propre finalité. La mise en place des objets sur une table, l'architecture des espaces intérieurs, la disposition bien réfléchie des artefacts sur les lits d'effet se déroulent comme un portfolio et disent ce que c'est qu'habiter un espace, d'y vivre. Tandis que la colorimétrie, en déployant toute une palette qui évolue d'un rouge flamboyant mais sombre vers un coucher de soleil empreint d'une chaleur moite, contient toutes les variations du désir entre tendresse et intensité. La sexualité serait-elle une drogue comme toutes les autres pour l'opiumane esselé, joué par Daniel Craig? Un plaisir des sens, destiné à atteindre une réalité autre, peut-être supérieure. Car dans une deuxième partie beaucoup plus expérimentale, le vagabondage homoérotique va se muer en randonnée à deux, dans un ailleurs exotique, à la recherche d'un breuvage aux vertus hallucinogènes, l'ayahuasca. À l'aide d'un procédé rudimentaire qui n'a rien perdu de son charme, la surimpression, le cinéaste évoque comment deux âmes en transe, éprises l'une de l'autre, pourraient fusionner jusqu'à ne former qu'un seul corps, et peut-être atteindre le nirvana, qui serait comme la jonction entre l'orgasme et la méditation transcendantale. On comprend mieux une autre lecture du titre. « Je ne suis pas queer, je suis désincarné », répètent les deux protagonistes chacun leur tour. Puis la mort elle-même ne semble être qu'une étape supplémentaire dans ce trip éthéré, dans lequel on avait perdu de toute façon depuis bien longtemps toute prise avec le réel. Difficile d'adapter un roman aussi farfelu que celui de Williams Burroughs, Guadagnino s'en sort bien en filmant comme personne la beauté des corps masculins tendus par le désir réciproque, mais on pourrait seulement reprocher à cette œuvre plastique d'être un peu vaine en définitive, de ressembler à une succession de dioramas, ces maquettes intelligemment construites, figées dans une cire intacte. Car le perfectionnisme souvent publicitaire de l'auteur le condamne à filmer des objets toujours sublimés. La noirceur du récit initial n'apparaît plus alors que comme une toile de fond anecdotique. Trop beau, trop propre, un peu moite par endroits, certes, mais aucunement malsain, jamais vraiment malade, jamais complètement torturé, quasi stérile. C'est le film d'un dandy propret, alors que le roman était celui d'un junkie atroce et sale.
Merci beaucoup, Gwen, pour ta chronique. Avant de conclure cette émission, on voulait faire un petit point actu et politique. Puisque hier soir, après l'Assemblée Générale des étudiants de la Faculté de Lettres à Ségalen, il y a eu un vote d'occupation immédiate de la fac de 24 heures reconductibles. Et cela fait suite à une mobilisation concernant 8 milliards en moins à l'ESR public pour remplir ses missions. C'est 1,5 milliard de coupes budgétaires sur l'ESR et pour l'UBO, c'est un déficit de 4,5 millions pour 2024 et 5 millions pour 2025. Les étudiants ont dormi sur place hier soir et dès ce matin, ils étaient à la fac pour organiser des ateliers pour maintenir l'occupation. Il y a eu un atelier féministe à 10h, puis une préparation de l'AG à 11h30, suivi d'une AG des personnels avec une assemblée générale à 13h30 pour discuter des solutions à mettre en place les prochains jours. Nous, on va suivre la suite de la mobilisation ce soir pour savoir s'il y a reconduction ou pas de l'occupation. Demain, il y a le jeudi noir avec une mobilisation dès 8h et après une manif à 10h30 en direction du centre-ville avec les syndicats comme la CGT, FO, Sud Éducation ou encore FSU qui seront présents pour soutenir le mouvement. Et vendredi, entre 18h et 19h, on passera un reportage pour en parler un petit peu plus en détail sur l'émission CE qu'il dit. Bonne soirée à toutes et à tous.